I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс
вспомнила. 这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
कपड़ों की लोचेरी की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Rodkini, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Troisième épisode de cette semaine consacrée aux politiques culturelles, quand la culture se moque du politique ou même le contraire. On va parler ce matin de contre-culture, de création artistique à contre-courant, un phénomène que l'on connaît bien de l'autre côté du Rhin, à Berlin, la ville de la culture underground.
On a trouvé le local et la première fois que j'y suis allé, j'ai su que ça marcherait, qu'on y ferait des soirées d'enfer.
On y est allé. On a ouvert la porte, on est descendu dans les catacombes, et à la lueur de nos briquets, on a aperçu l'énorme porte rouillée de la salle des coffres. Et là, pour nous, ça a été une évidence.
Ça faisait sûrement 40 ans qu'il ne s'était plus rien passé dans cet endroit.
Il n'y avait rien, ni eau, ni tout à l'égout, ni électricité. Rien. Il fallait tout installer.
En haut, on a ouvert une galerie en bonne et due forme. Mais en sous-sol, on a installé une salle expérimentale qu'on a appelée le Trésor. On sentait qu'on lançait un nouveau phénomène, qu'il allait se passer quelque chose. Bien sûr, on était encore dans l'euphorie de la chute du mur.
Le club se trouvait sous terre, à cheval entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Dans un espace totalement inédit comme celui-là, il n'y avait plus d'ouest ni d'est. Il n'y avait que la musique.
Le Trésor, club mythique installé à l'intérieur du coffre d'un ancien grand magasin inauguré en 91, qui a accueilli les plus grands DJ de la scène allemande et internationale, un véritable no man's land, avant de renaître sous cette forme inattendue, cet espace de fête créé par Dimitri Egerman, est devenu l'un des piliers de la mythique nuit berlinoise rythmée par la musique techno. Berlin, la capitale européenne de la contre-culture, une ville qui, à la fin du XXe siècle, s'est réinventée après avoir subi la destruction de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la torpeur de la guerre froide, lorsque à l'ombre du mur, tout semblait figé. C'est dans cet environnement, en apparence immobile, que pourtant, dans les années 80, quelque chose se passait. Une scène artistique novatrice, inventive, provocatrice aussi, en rupture avec le passé et désireuse d'inventer l'avenir. Mais de quoi était faite justement cette scène alternative berlinoise des années 80? Qui étaient les acteurs de cette histoire de la contre-culture musicale qui nous éclaire sur la grande histoire de cette ville qui s'est réinventée une identité depuis ses marges? Et que reste-t-il aujourd'hui de cette contre-culture produite par cette scène des années 80, comment la chute du mur de Berlin l'a transformée? On ira également du côté des États-Unis où récemment la culture des clubs s'est trouvée brutalement sous pression avec l'épisode de la tuerie du Pulse à Orlando où il y a un peu plus d'une semaine, un club gay dans un quartier essentiellement latino et dans une Amérique toujours sujette à un climat homophobe latent. Là aussi, la production musicale s'est faite de manière presque cachée, confidentielle et reste encore largement underground. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Lam. Et puis pression sociale, pression parfois explicitement politique et émergence d'une timide contre-culture pas forcément là où on l'attend. On fera un petit pas de côté, du côté du royaume du Bhoutan en fin d'émission, royaume qui a fait du bonheur un indicateur national qui a remplacé le PIB classique et qui a mis en place une politique volontariste en la matière. Comment alors comprendre l'émergence en ce moment d'un art du tatouage pourtant officiellement prohibé par les autorités? On retrouvera justement le premier tatoueur du pays, Yeshe Nidup, ça sera tout à l'heure en fin d'émission. Pour nous accompagner aujourd'hui dans cette scène berlinoise, on a invité Frédéric Cisnal. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, DJ. Vous avez vécu à Berlin de 1974 à 1990. Vous avez vécu au cœur donc de cette contre-culture berlinoise qui, depuis, c'est vrai, c'est un petit peu s'agit quand même sous l'influence d'un tourisme musical qui a profondément transformé peut-être l'âme des soirées. J'imagine que vous êtes retourné à Berlin et que vous avez constaté ça vous aussi. Dans votre livre, vous avez recueilli pendant plusieurs années, pendant presque 4 ans, plus de 4 ans même, le témoignage de ces acteurs de la scène musicale underground des années 80 qui vont faire de cette ville ce qu'elle est devenue d'une certaine manière aujourd'hui. Lorsque vous arrivez en 74, vous êtes encore un enfant, un petit enfant, et la ville dans laquelle finalement vous débarquez n'a rien de très réjouissant, de très festif. Vous dites qu'à l'époque, on se désintéresse de cette jeunesse qui, vous dites, elle vit finalement dans une cité malade. Il faut dire évidemment, je le disais, que dans ce Berlin des années 70-80, on est encore dans cette période post-guerre mondiale, on est évidemment au premier rang de cette guerre froide qui coupe le monde et la ville bien sûr en deux. Vous dites que si aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont eu l'occasion, Frédéric Cisnal, d'entendre cette scène musicale, ils y retrouvent une certaine mélancolie, peut-être même une certaine tristesse. Les acteurs, eux, ont conduit leur innovation musicale par une chose, le plaisir, l'amusement.
Oui, pour eux, c'était véritablement de l'amusement. Beaucoup sont nés à Berlin, d'autres sont venus pour fuir souvent le service militaire, d'autres étaient gays, d'autres avaient des choses, en fin de compte, qui gênaient leurs voisins dans leur petit village, et ils sont venus à Berlin-Ouest pour y habiter. En arrivant dans cette ville, elle portait encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, comme vous le disiez, les politiques se désintéressaient totalement de cette jeunesse. Début des années 80, c'était véritablement la guerre froide. D'un côté, les missiles SS-20, de l'autre côté, les Pershing, et tout simplement cette population qui est prise en otage, dont cette jeunesse qui s'ennuie fermement. Alors, au lieu de, pour certains, de s'ennuyer fermement, ils décident tout simplement de créer de la musique, mais à contre-courant, à rejeter en fin de compte de ce qu'ils auraient pu étudier à l'école, mais plutôt de ce que leurs parents avaient étudié à l'époque. Le côté ferme, dirigé, tout ça, ça ne les intéressait pas. Pour eux, ils ont tout simplement eu le désir et l'envie d'intégrer des concepts dans leur musique, de ne pas ressembler à toutes les idoles de leurs parents, ou même voir les leurs. Ils écoutaient David Bowie, Roxy Music, Can, Kraftwerk, mais bizarrement, quand il disait « maintenant on va créer quelque chose », ça devait pas ressembler à ce qu'il connaissait déjà.
Ce qu'il cherche, vous dites, c'est l'amusement, mais c'est aussi se construire finalement une identité. La première figure qu'on rencontre dans votre livre, c'est Mabel Hacheneler. Il débarque à Berlin, vous l'expliquez, enfin c'est lui qui l'explique, mais vous le rapportez en 1969. Il débarque dans un appartement communautaire alors qu'il a tout juste 18 ans, et il dit d'ailleurs qu'il cherche justement à échapper au service militaire. Aujourd'hui, il vit toujours en colocation avec Wieland Speck, qui est devenu l'un des directeurs de la Berlinale. Et pour Speck, lui, ce qu'il vous dit, c'est que le choix finalement de venir à Berlin, c'est un petit peu plus tard, c'est en 1972, ça apparaît comme une évidence. Il vous dit que c'est une ville qui est propice à l'épanouissement de son identité homosexuelle. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut peut-être préciser.
Oui, c'est quelque chose de très important. Bizarrement, le noyau de la scène berlinoise underground du début des années 80 provient de la scène gay. À l'origine, les endroits qui étaient pour la scène gay se limitaient à des bars où les portes étaient closes. À l'entrée, il y avait un petit vasistas où on ouvrait et on vous laissait rentrer ou non. Et du jour au lendemain, il y a eu un autre bar qui s'appelait Am Anderen Ufer, qui a été ouvert à Kreuzberg. Et il était très tolérant, c'était un bar comme un autre. Et David Bowie venait, Iggy Pop aussi, Brian Eno. Et c'est à partir de là qu'il y a une scène qui s'est montée progressivement. Mais ce qui était intéressant, c'est que des gays puissent être vivre comme bon il leur semblait, où personne ne les jugeait, personne ne les regardait. Et en même temps, il y avait aussi d'autres gens qui, bizarrement, n'étaient pas gays, mais qui avaient envie de pouvoir s'affirmer, d'avoir une identité propre à eux-mêmes. Et justement, ils allaient dans des bars comme cela. Et en fin de compte, c'est à partir de là que s'est fondée cette fameuse scène, en contre-courant, en justement voulant fuir tout ce qui avait déjà été établi.
Ce noyau, au départ, il est extrêmement restreint. Vous dites que c'est une cinquantaine, une centaine maximum de personnes.
Ouais, 50-100 personnes, grand maximum.
Avoir l'occasion d'entendre de la musique dans cette émission à Frédéric Cisnal. Ce qu'on entend là, alors je ne suis pas germanophone, donc vous allez me reprendre. Krieg in der Staden, d'un groupe. Alors reprenez-moi déjà pour là.
Krieg in den Städten, c'est la guerre dans les cités.
Et alors le groupe
Einstürzende Neubauten.
Voilà, vous allez m'aider régulièrement dans cette émission. C'est un groupe originaire de Berlin-Ouest,
totalement.
Formé en 1980. On est vraiment au tout début des années 80. On parle souvent d'une musique industrielle, bruitiste, industrielle, parce que c'est un groupe qui régulièrement va chercher son inspiration sur les chantiers de la ville.
Totalement, à l'origine, ils sont deux musiciens, c'est Andrew Unruh et Bixa Bargalt, le chanteur. Et Unruh va régulièrement, la nuit, il va sur des chantiers et il y vole carrément des conduits d'air, des tuyauteries, une ponceuse, un marteau-piqueur, et il l'utilise en fait pour en faire de la musique. La base et la philosophie de ce groupe, c'est de se dire que tout matériel est musique. N'importe quoi peut produire de la musique. Et c'est la base de cette idée-là.
C'est un groupe qui est parfaitement représentatif, il me semble, mais c'est vous qui allez nous le dire, de cette scène artistique alternative qu'on a baptisée les Dilettantes Géniaux, qui, je crois, est un nom qui provient d'un festival artistique et musical qui s'était tenu en septembre, le 4 septembre 1981, au Tempodrome de Berlin, et qui est une étape fondamentale dans l'émergence de cette scène.
Totalement, à l'origine, quand les premières cassettes sont apparues, les journalistes avaient un petit problème, c'est que on aime bien, nous journalistes, de pouvoir les classer, leur imposer un style, même encore de nos jours. Et à l'époque, dans leur vacarme, dans leur anarchisme, personne n'arrivait à les classer, ces gens-là. Donc effectivement, le 4 septembre 1981, au Tempodrome, a lieu le festival des Géniaux Dilettantes, où figure, en fin de compte, toute cette scène. À l'origine, c'est bien 50 personnes, et pour ce soir-là, il devait être une centaine. Figureront à peu près 1000 spectateurs complètement ébahis, abasourdis par ce bruit et aussi par cette provocation sur scène. À savoir qu'il n'y avait pas que les Einstürz und Neubauten sur scène, il y avait aussi Sprung aus den Wolken, Die Tödliche Doris, et aussi pas mal d'autres personnes que l'on retrouvera dans d'autres groupes tels que Gudrun Gut.
Ébahis mais fascinés?
Oui, totalement fasciné, parce que c'est une musique totalement novatrice et qui correspond bien à cet état d'esprit, cette ville grisâtre, cette ville triste que l'on nomme aussi malade en fait.
Il y a aussi des paroles, il y a des chants. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Quel est le message? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un message politique en particulier?
Alors suivant les groupes, effectivement, il y a un message ou aussi il y a un concept qui est caché derrière. Alors si l'on doit parler effectivement du message, quand on dit Krieg in den Städten, avec le côté... martelé de la musique de Unruh quand il est en train de taper sur des tuyaux d'aération, ça donne toute une atmosphère, justement. C'est la fin du punk à ce moment-là. Les jeunes, quel est l'avenir? Quelle est la vision? C'est do it yourself. Fais-le par toi-même. À l'origine, le punk a été une explosion parce que tout le monde s'est rendu compte que eux aussi pouvaient prendre une guitare et jouer trois accords avec un rythme carré, du quatre temps. Et ça s'est fait tout seul, comme ça.
Ça s'est fait tout seul, vous avez raison de le dire, et vous parlez du punk. Il y a peut-être une figure, alors il y en a beaucoup évidemment, mais une figure qui incarne d'une certaine manière l'arrivée du punk du côté de Berlin, c'est Nina Hagen. Ça, c'est un titre de son premier album. Je parle d'elle parce que il se trouve que Nina Hagen, les auditeurs le savent peut-être pas, mais elle est née à Berlin-Est. Elle avait un beau-père qui était poète, qui était chanteur dissident, qui s'appelle Wolf Biermann. Et c'est quand Biermann, justement, va perdre sa nationalité est-allemande que lui et toute sa famille vont s'installer du côté de Berlin-Ouest. Et Nina Hagen, elle, assez rapidement, va partir pour Londres. On est en 1977. Elle va justement fréquenter cette scène punk. Elle rentre ensuite à Berlin où elle sort justement ce premier album. Donc, nous voilà avec le punk qui débarque en Allemagne. Est-ce que finalement, comment est-ce que tout ça joue sur cette scène-là? Est-ce qu'on essaie d'une certaine manière d'imiter ce qui se fait du côté de la Grande-Bretagne? Ou est-ce qu'on cherche au contraire à s'en démarquer en faisant autre chose? Et c'est quoi ce autre chose?
C'est totalement le fait de se démarquer. L'idée pour eux, par exemple, c'était de fuir le guitariste qui s'est joué un solo de 5 minutes et qui pourra le reproduire le lendemain d'une façon parfaite. Eux, ça les intéressait pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était utiliser l'instrument et non pas savoir jouer de l'instrument d'une façon conventionnelle. Et justement, en faisant les choses d'une façon complètement anachronique, ils arrivaient à y trouver non seulement une esthétique, mais aussi une présence et une identité.
Et une identité qui se fait sur quelle base, sur quelle influence? Si on regarde un peu les influences musicales de ces pionniers de cette scène berlinoise, vous disiez tout à l'heure, il y avait Bowie, il y avait Roxy Music, donc là, on est du côté de la Grande-Bretagne, il y avait qui d'autre?
Il y avait surtout aussi, il y a eu Kraftwerk qui a laissé des traces, mais
et notamment New qui est une recomposition de Kraftwerk. Hein.
Le groupe Neu, effectivement.
Neu, pardon. Désolé sur la prononciation.
Non, Neu effectivement a énormément marqué Gudrun Gut. On avait déjà beaucoup parlé. Elle a été marquée par ce groupe-là, tout comme Blixabargeld. C'est un groupe qui a laissé de grandes traces. La base musicale, c'était tel que sur un titre qui se nomme Allo Gallo. C'est deux accords répété pendant plus de 10 minutes avec une rythmique extrêmement sèche et extrêmement minimale. Et ça ne fait que se répéter. C'est une base. On la répète et on verra jusqu'où on va. Déjà à l'époque, il y avait aussi cette idée, ce format radiophonique où chaque chanson devrait tenir entre 3 minutes 30 et 4 minutes. Oh, pour eux, le format n'existe pas. Des fois, le titre va tenir dans 1 minute 30 quand tout a été dit. Et des fois, il tient sur 10 minutes. Ils n'ont pas de format en fin de compte. Ils n'ont pas d'idée. Ils ont leurs idées. Mais au moment où ils prennent un instrument en main, ben pour eux, l'idée, c'est de ne pas le prendre en main comme l'aurait fait Jimi Hendrix, par exemple. Certainement pas, justement. C'est d'en faire du bruit, d'en extirper des sons qui n'existaient pas auparavant. De faire une rythmique tout à fait logique, hein, que l'on aime, des choses... Ça n'intéressait pas ces gens-là. Ils voulaient totalement se démarquer.
Alors, il y a l'influence musicale, mais il y a aussi l'influence politique. Est-ce que ces pionniers de cette scène musicale berlinoise ont sinon un projet politique, au moins quelque chose qui ressemble à une idéologie qui charpente un petit peu leur vision du monde? À quel projet politique est-ce qu'on peut se raccrocher quand on est comme ça, en tension entre l'Occident et l'espace soviétique?
Courant des années 70, il y a eu un grand mouvement terroriste en Allemagne qui s'appelait la Fraction Armée Rouge. Ça a été abordé dans mon livre, mais je ne l'ai pas fait figurer dedans parce que le sujet non seulement n'était pas assez intéressant, je voulais surtout m'attarder sur l'histoire de cette musique-là, les raisons et la façon dont ils ont créé ça. Néanmoins, à partir du début des années 80, c'est un rejet total de la société. Ils n'étaient pas du tout en train de courir après une idéologie politique. Justement, c'était peut-être ça aussi qui les frustrait. Le fait de vivre dans une ville emmurée et en même temps d'avoir aucun politicien qui puisse s'intéresser à eux. C'était bien ça le problème.
Un rejet total de la société, mais est-ce qu'on peut pas dire quand même qu'il y a des groupes qui s'affichent comme, disons, des contestataires de groupes de gauche, pardon. Je pense par exemple au groupe Tonstein Scherben, les débris de pierre d'argile. En attendant votre réponse, on va les écouter un petit peu.
Avec plaisir.
D'ailleurs, pour le coup, c'est un morceau qui nous est assez familier à tous. Écoutez.
Platz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz. Damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im Besetzen.
Rauch aus Song, je ne sais pas si je prononce correctement une fois encore, Tonstein Scherben, on est là en 1972 pour ce qui est du morceau, mais en réalité il est question dans cette chanson de l'occupation d'un bâtiment duquel la police berlinoise avait voulu évacuer les squatteurs, d'ailleurs dans une intervention assez violente, et ce titre était devenu d'une certaine manière un symbole, un slogan, et qui a été repris quand même par les contestataires de gauche. C'est pour ça que je vous posais la question.
Effectivement, s'il y a eu un groupe véritablement contestataire derrière lequel ils sont bien affichés, c'est bien Tonstein Scherben. Sur le titre Pétanian, à l'origine, il faut comprendre que donc cette jeunesse, les parents, quand ils ont fait un ou deux ou trois enfants, ils vivent tous dans la même pièce. Quand on a 14, 15 ans, ça commence à devenir difficile. Les logements sont pas extraordinaires, c'est du post-Seconde Guerre mondiale. Les toilettes sont sur les paliers, c'est très compliqué pour beaucoup de familles. En fin de compte, cette jeunesse demande à avoir une certaine indépendance. Et effectivement, le premier squat à Berlin, c'est le Bethanian. Il existe encore d'ailleurs. Et c'est là où, en fin de compte, beaucoup de squatteurs se sont enfermés. Bien sûr, ils ont tenté, les policiers ont tenté de les virer, ça n'a pas du tout marché. Et ils sont restés dedans, ils ont dit, ben voilà, si vous rentrez, ça va être un bain de sang. Alors on leur dit, on va vous laisser une semaine. Mais une semaine est devenue un mois, et on est en 2016, et cet endroit existe toujours.
Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr.
in unserer Zwei-Zimmer-Luxus-Wohnung und das Bethanien steht wieder leer.
Alors, ces artistes qui produisent cette musique, ils n'étaient pas tous des habitués des studios d'enregistrement comme le sont pour le coup Tonstein-Scherben, qui sont déjà bien installés dans ces années 70. Et par ailleurs, il y a aussi chez eux ce désir de s'inscrire en rupture, évidemment, par rapport aux prédécesseurs, y compris, vous l'avez dit, dans les instruments qui sont utilisés, les perceuses, etc., etc. Comment est-ce que cette nouvelle scène musicale berlinoise peut vivre en dehors des concerts, en dehors des performances? Comment est-ce qu'on fait pour vivre en dehors de ces réseaux-là?
À l'origine, quand ils ont commencé à faire de la musique, ils ne se sont jamais posé la question de savoir s'ils pourraient en vivre. Beaucoup travaillaient dans des bars, certains dans des discothèques. Les clubs n'existaient pas encore à l'époque, c'est pas la même chose. Et pour certains, il faut aussi comprendre, c'est que Berlin était une ville, on va dire, perfusée avec beaucoup de subventions pour que les gens restent et ne fuient pas cette ville-là. Donc il y avait déjà une sorte de RSA, si l'on peut dire, pour la jeunesse. Pas mal de personnes en bénéficiaient. Bon, ils vivaient pas très loin avec ça, hein, vu ce qu'ils en touchaient. Mais comme beaucoup vivaient dans des squats, hein, déjà, il n'y avait pas de problème de loyer. En même temps, si certains avaient quand même de l'électricité, ils étaient peut-être pas sûrs non plus de la payer. Donc voilà, il y avait une grande aide, une aide entre eux. Il y avait un côté très social. Celui qui avait de l'argent pouvait en prêter à certains ou lui donner à manger. C'était comme ça. C'est aussi comme ça que toutes ces communautés, ces colocations sont nées aussi dans cette ville.
Et puis quand ça a commencé à prendre, on a commencé aussi à s'enregistrer. Il y avait évidemment les cassettes aussi qui étaient là. Et on a finalement peut-être aussi commencé à organiser une diffusion, disons, parallèle, en tout cas hors des circuits traditionnels.
La cassette a une importance énorme dans cette histoire. À savoir qu'il y a deux labels à l'origine qui ont utilisé ce support. Le label Eisengrau, qui est en fait le nom d'un magasin qui est tenu par Blixa Bargeld, Gudrun Gut à l'origine et Bettina Köster. Enrou y habitera aussi. Et dedans, en fin de compte, ils s'enregistrent. Et avec deux magnétocassettes, ils font des éditions de 20 à 30 cassettes. Ça, c'est les premiers. Le deuxième, c'est le Cassette Combinat, qui a été inventé par Kiddy Sitney, qui deviendra l'un des peintres du mur de Berlin. Kiddy, tout en fondant les Sprungensteine Wolken, lui aussi voulait pouvoir s'exprimer, mais librement, sans rien avoir à rendre ou à donner ou en échange avec des maisons de disques. Parce que, tout simplement, les maisons de disques ne
s'intéressent... On est encore dans cette culture du do-it-yourself.
Déjà, et non seulement... Même si des gens avaient pu s'y intéresser, cette musique ne les touchait absolument pas. Ils ne savaient pas quoi du tout en faire. C'était une musique dépressive, qui criait, les structures n'étaient pas là, d'autres faisaient que du bruit, et d'autres, par contre, étaient des choristes, et proposaient en même temps des concepts qui étaient cachés derrière. Donc, pour une maison de disques qui essayait... l'idée d'une maison de disques, c'est toujours de pouvoir en gagner quelque chose, de pouvoir minimum en gagner de l'argent. Mais avec ça, c'était sûr que ça ne marcherait pas. Donc, la cassette était le support pour pouvoir exister, et ça se vendait très facilement.
Ça, c'est Mondlicht 1984, je le fais en français, par un groupe qui s'appelle X-Mal Deutschland, que je ne connaissais pas, moi, que j'ai découvert.
Alors, c'est un groupe à l'origine...
De Hambourg, pas de Hambourg, Berlin. Justement.
Exactement. Il y a une grande forte connexion avec la ville de Hambourg, tout simplement parce que à Berlin, tout au début, il n'existe que deux labels qui arrivent à éditer des vinyles, à savoir le label Monogame et aussi Zensor. Zensor, c'est un magasin de disques avant tout. Et lui, Burkhard Seiler, a eu l'idée avec un copain de monter un label et d'éditer en fin de compte la musique qu'ils avaient envie d'entendre. Même chose avec Monogame, l'idée d'origine est très originale, à savoir que Elisabeth Recker et Michael Feucht, en rentrant une fois à Berlin, ils sont en Allemagne de l'Ouest et c'est justement Burkhard Seiler qui conduit. Et il disait, oh, ce serait chouette quand même qu'on puisse monter un label un jour ensemble, ce serait génial, mais on n'a pas d'argent. Et si on se mariait ? À Berlin, en fin de compte, les gens qui se mariaient, on leur donnait de l'argent,
on
leur donnait des primes. Et en fin de compte, cette prime a été utilisée...
pour monter le label.
Pour monter Monogame.
Oui, c'est vrai qu'à Hambourg, il y a pas mal aujourd'hui de labels. Il y a notamment Zigzag, qui a été créé par Alfred Hilsberg.
Exactement.
Qu'on retrouve dans votre livre notamment, qui avait une vision visiblement très ouverte de la musique, qui avait cette idée que finalement, on n'a pas besoin d'être musicien, n'importe qui peut faire de la musique et peut la publier.
Exactement, c'était ça. Tout simplement, il m'expliqua, lorsque l'on s'est rencontrés, que pour lui, à l'origine, il était journaliste pour le magazine Sound. Et ce qui se passait, il recevait énormément de cassettes. Il ne recevait que des cassettes. Et cette musique-là, il l'aimait, mais il se disait, mais pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas en vinyle ? Donc, il s'est renseigné avec des amis comment éditer des vinyles. Donc, à partir de cassettes, à l'origine, ils ont édité des vinyles. Et il a utilisé l'argent qu'il gagnait avec le premier vinyle pour en payer un deuxième, et ainsi de suite. Ça s'est monté comme ça, tout simplement. Et au début, il y a produit des groupes tels que Die Tödliche Doris, le deuxième double 45 tours, la deuxième publication de Einstürz Neubauten apparaît justement sur le label Zigzag, ainsi que le premier album qui s'appelle Collapse. En fin de compte, ça a été une porte d'entrée pour l'édition musicale, ça a été la ville de Hambourg, et non pas Berlin, justement parce qu'ils n'avaient pas les structures. Et aussi, il leur manquait une chose. C'était un vrai studio où il puisse s'exprimer et travailler. Le studio en lui-même s'appelait le Hafenklang, qui était juste à côté du... D'ailleurs, il existe toujours. Il est juste à côté du port de Hambourg.
On dit visiblement que cet homme, Alfred Hilsberg, manquait un tout petit peu de rationalité économique. Il n'avait pas tellement le souci de l'argent, voire même, on a dit qu'il ne payait pas forcément les artistes.
C'est quelque chose que l'on a dit de lui... Moi, c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est plutôt son œuvre, de ce qu'il en a fait. Alors, il est vrai que quelqu'un qui publie de la musique aimerait bien toucher ses droits d'auteur, c'est tout à fait logique. Simplement, en 1980, lui, il a fait ça d'une façon très romantique. Mmh. Comme je disais juste avant, il a utilisé, on va dire, les bénéfices qu'il a tirés du premier 45 tours pour en payer un deuxième, et ainsi de suite. Mais aussi, il s'est organisé comme monteur de tournée, organisateur de concerts. Il a fait tourner les Cures très rapidement, par exemple, avec en première partie... Il avait mis l'un de ses groupes fétiches, à savoir Abwärts, qui était l'un des groupes punk imminents et majeurs de la scène de Hambourg.
Et puis, il y eut la chute du mur.
Wolle Neugebauer m'a appelé, et quand il m'a dit que le mur était tombé, j'ai fait « Mais oui, c'est ça ». Et puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il se passait quelque chose.
Le 9 novembre, on a décidé de sortir de Berlin-Ouest dès le lendemain. Ma copine et moi, on s'est tout de suite dit « à l'UFO ». On va à l'UFO.
On s'est retrouvés sur le Kurfürstendamm et on est allé à l'UFO. Et on a fait la fête toute la nuit.
Extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte, le mur du son, l'UFO, ce premier club d'acid house de Berlin, une scène pionnière pour la techno qui devenait la musique écoutée par cette jeunesse et de l'Est et de l'Ouest, désormais réunie. Frédéric Cisnal, finalement c'est un peu la fin pour vous, la fin de cette histoire que vous évoquez dans votre livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions Le Mot et le Reste, Berlin avant la techno, du post-punk à la chute du mur, l'arrivée de la techno, du DJ, est concomitante de cette fin des deux blocs.
Moi j'ai vécu mes premiers rêves partis en 1988 sur la Grosse Perrenstrasse, aussi dans le quartier de Yorkstrasse. Il y avait, c'était des flyers qui traînaient du bouche à oreille. J'étais pas un grand fan de cette musique-là, mais par contre j'aimais beaucoup l'ambiance. Parce que bizarrement, quand on entrait dans un endroit pareil, qui était souvent en hangar, avec un petit sound system et les deux spots et un stromboscope, il n'y avait pas de punk, il n'y avait pas de skin, il n'y avait pas de rasta, il y avait toutes les cultures et personne ne se regardait. Les gens étaient là pour danser, écouter de la musique et partager, en fin de compte, une sorte de joie et une gaieté qui n'existait absolument pas avant.
Mais en quoi, justement, ces personnes-là que vous décrivez, ces amateurs de techno, qui vivent aussi un moment évidemment historique colossal, en quoi est-ce qu'ils se démarquent finalement des pionniers post-punk des années 80 que vous évoquez dans votre ouvrage ?
Déjà, c'est pas du tout la même musique. Ça, c'est la première des choses.
Évidemment, ça tombe sous le sens.
Ouais, ça c'est clair. Franchement dit, c'est pas la même musique. Même s'il existait déjà des prémices de cette musique-là bien avant, à savoir que cette musique est quand même assez joyeuse et que La grande différence, quand vous jouez un groupe dans un groupe de rock, vous êtes sur scène, vous jouez des titres de 3 à 5 minutes, il y a une ambiance, vous arrêtez, vous reprenez. Mais là, les DJ jouaient pendant des heures de suite. Et ils vous apportaient quelque chose qui n'existait pas avant avec le rock ou l'industriel ou même le reggae, à savoir de monter en transe et d'arriver en transe avec la musique. Mmh. Ça, c'était quelque chose de totalement nouveau. Cette musique répétitive, où il y avait quoi? Il y avait que des petits bruitages derrière, une rythmique minimaliste qui provenait d'une boîte à rythme qui s'appelait la 303 de chez Roland. Voilà, ça a été complètement formaté au début, et bizarrement, ce côté entraînant, hyper dansant, ces grosses lignes de basse, bah, tout simplement pris l'âme des personnes, bah, fait bouger les hanches. Et même moi, au bout d'un moment, je me suis fait berner. Et tout d'un coup, je suis rentré dans quelque chose que je n'aurais jamais croisé dans le rock, à savoir la trance. Voilà. Et effectivement, ça devient aussi cette fameuse musique acide, techno, house. Ça devient, en fin de compte, le générique de la chute du mur de Berlin. Et à ce moment-là, bah, il y a deux peuples qui vont se retrouver, se rencontrer, parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Certains n'avaient pas pu voir leur famille qui était à l'Est, et vice-versa, bien sûr, depuis des décennies. Des familles étaient perdues, ne se parlaient plus du tout. Donc, tout d'un coup, bah, pour cette jeunesse qui a soif de vivre, qui a soif de découverte, de pouvoir s'éclater, bah, la techno arrive à ce moment-là. Il faut comprendre que Berlin, tout d'un coup, double de volume. C'est aussi grand, sinon plus grand, qu'un département français. Et dans cette ville-là, bah, il y a beaucoup d'usines qui vont être abandonnées. Il y a des friches. Et c'est là-dedans qu'en fin de compte, quelques organisateurs... un peu clairvoyants, se disent bah samedi prochain, on va organiser une fête là-dedans. On va essayer déjà de trouver du courant, on va louer un sound system, et puis on va faire à la do it yourself. Et ça s'est passé comme ça, tout simplement.
Ça s'est passé comme ça, sauf qu'effectivement, comme ces peuples finalement se sont retrouvés autour de cette musique, que cette jeunesse s'est mise effectivement à écouter massivement cette musique-là, il y a une forme de récupération. On s'est dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose de tout ça.
En 1995, l'engouement de la nouveauté, de la techno, était passé. Et différents acteurs avaient bien compris comment ils pouvaient récupérer le phénomène.
C'était la ruée vers l'or. Tout le monde voulait sa part du gâteau. On a vu débarquer les chasseurs de tendance, les agences de pub et les requins de l'immobilier.
On avait toujours le sentiment que l'argent allait aux mauvaises personnes, à des gens de l'extérieur qui n'avaient pas connu le mouvement à ses origines. Ils étaient apparus du jour au lendemain en se faisant passer pour les pères fondateurs ou les mères fondatrices de la techno.
Il y a des trucs que je trouvais complètement débiles, comme la CDU, le parti de droite, qui voulait son char à la Love Parade. Pour moi, c'était vraiment de la récupération.
Et ouais, la récupération, le mot est lâché, Frédéric Cisnal. On est au milieu des années 90 et on va voir cette récupération politique, économique de ce mouvement-là. Est-ce que les pionniers, finalement, ceux que vous avez rencontrés, dont vous avez recueilli les témoignages dans votre ouvrage, est-ce qu'ils ont été totalement exclus de cette récupération? Est-ce qu'ils s'en sont extraits? Ou est-ce que, finalement, ils ont d'une certaine manière réussi à accompagner ce mouvement-là et bénéficier, profiter aussi de cette manne?
Alors, ils n'ont pas été exclus de cette scène-là, parce qu'elle était ouverte à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Par contre, la deuxième, elle ne les intéressait pas tant que ça. Parce que déjà, ils n'avaient pas tout à fait le même âge. Les gens qui découvraient la techno, les premiers DJ, bah, frôlaient la trentaine. Ou alors, ils l'approchaient gentiment. Mais alors qu'eux étaient déjà plus âgés. Ils n'avaient pas du tout le même vécu, et même voir la même approche des bases fondatrices de la musique, en fin de compte. Cette musique, quand elle est arrivée, bah, ça a été une porte ouverte pour beaucoup de gens. Alors donc, cette ancienne scène berlinoise, pour en revenir... Ben non, ça les a pas tellement intéressés que ça. Par contre, ils ont réussi, une fois de plus, à se l'approprier d'une façon différente. Encore des artistes, des groupes tels que Automate, avec Jörn Arbeit, guitariste justement de Einstürz Neubauten, l'utilisent extrêmement bien. Ils joueront d'ailleurs courant du mois d'août au festival à Berlin, le festival Atonal, qui se déroulera au Trésor justement. Ça aussi, c'est une façon d'avoir réutilisé une partie de cette musique électronique.
Toute dernière question, Frédéric Cisnal, avant de prendre la direction des États-Unis. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit au fur et à mesure. On a vu un phénomène de gentrification s'emparer des différents quartiers de Berlin, et cette scène alternative, elle a vu aussi son espace se réduire progressivement. Où est-ce qu'elle s'est déplacée? Quels sont aujourd'hui les nouveaux espaces, les nouvelles villes où émergent les formes de contre-culture actuelles?
Marzahn commence à être un peu occupé par quelques artistes qui se déplacent là-bas. Il y a deux ans, vous aurez cité, voilà, il y a de nouveaux endroits à Neukölln. Le problème, c'est que la ville n'est pas extensible non plus. Hein. Elle est très très grande, mais c'est pas extensible. Construire de nouveaux édifices sur des terrains vierges, il y a un moment, ça permet de cloisonner la ville. Berlin a besoin d'espace, c'est une ville qui avait beaucoup d'espace. Le fait de rajouter des immeubles partout, de faire les choses totalement cossues, ça posera un problème tôt ou tard. Créer quelque chose, la culture ne provient pas du tout de l'argent. Elle n'a pas besoin de choses cossues. Elle a besoin, bizarrement, de messages, de détresse et de pression et de passion.
De Berlin à Thimphu, création à contre-courant, c'est notre sujet ce matin. On est avec Frédéric Cizenal, journaliste, DJ et auteur de ce livre « Berlin avant la techno, du post-punk à la chute du mur » qui était paru aux éditions Le Mot et le Reste. On est sur France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Après Berlin, direction les États-Unis.
Il faut qu'on soit unis, qu'on ait un monde davantage rempli de tolérance et d'amour.
Les groupes de minorités sont visés, et spécialement la communauté LGBT, les gens de couleur aussi. Je pense que nous sommes particulièrement ciblés. Les gens s'opposent au mariage gay. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement s'aimer ?
C'est tellement triste, cette catastrophe en Floride, mais on revoit ça très souvent. Et je crois qu'on est arrivé à une limite. On veut montrer qu'on ne peut plus continuer avec ce système de haine.
Bien sûr que je suis inquiet, mais je n'ai pas envie de me réveiller chaque matin, la peur au ventre. Je dois vivre. Nous comptons bien rester là. Nous serons plus nombreux et meilleurs que ce que vous pouvez imaginer. Nous ne serons pas vaincus.
Et oui, la tuerie d'Orlando, une contre-culture en ligne de mire finalement. Bonjour Olivier Lame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes musicien, c'est un spécialiste de musique électronique. Vous êtes journaliste au service Culture de Libération et également chroniqueur à la dispute sur France Culture. À la suite de cette tuerie d'Orlando, où je rappelle 49 personnes ont perdu la vie dans cette boîte de nuit sous les balles d'Omar Mateen, vous aviez écrit un article dans Libération sur les clubs comme lieu de refuge, comme lieu d'émancipation pour les minorités homo, noirs et latinos. Il y a eu beaucoup de débats aux États-Unis, mais aussi ici en Europe, pour savoir quelles étaient au fond les motivations du tueur, pour comprendre le caractère homophobe dans le choix du lieu visé. Et d'ailleurs, ils vont se poursuivre, ces débats et ces polémiques, puisque lundi dernier, le FBI a rendu public une transcription partielle des échanges entre les policiers et le terroriste, et il n'est pas question, il n'est pas mention plutôt de d'homophobie particulière, ce qu'on aurait pu attendre, bien sûr, au regard en tout cas des informations livrées par son père, qui avait raconté cet événement où son fils s'était mis dans une colère noire à la vue d'hommes s'embrasser à Miami. Alors, il n'est pas question, bien sûr, Olivier Lame, de nier ce caractère homophobe, le caractère homophobe de cette attaque, parce qu'au-delà bien sûr des motivations de l'auteur et de l'attaque, le fait que les clubs LGBT constituent un lieu de lutte, d'affirmation, de refuge pour ces communautés suffit pour mesurer combien tout cela représente pour elles un acte de violence volontaire à leur égard. D'autant qu'on reste bien sûr dans un contexte où malheureusement les actes homophobes sont tristement courants. Quel regard vous portez-vous sur la frilosité, pour pas dire carrément la gêne, de certains médias à assumer l'homophobie de cet acte ?
Je crois qu'on peut même aller au-delà d'une gêne, puisqu'il y a un terme qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps dans beaucoup d'articles militants et ou moins militants, qui est l'invisibilisation. Je pense qu'à partir du moment où 80 personnes sont assassinées dans un club gay pour leur identité, je pense que peu importe les motivations du tueur ou le contexte dans lequel la tuerie arrive, c'est un acte homophobe. Et le simple fait que ça survienne dans un club LGBT fait qu'il était, enfin, il nous a paru vraiment essentiel de rappeler quel était le rôle des clubs dans l'histoire du mouvement LGBT, et dans son émancipation, et aussi dans des moments où elle était vraiment particulièrement touchée par l'homophobie.
Et ça, ce rôle, c'est évidemment ce lieu de refuge et de convergence des luttes fondamentales pour les minorités américaines. Je vous cite, je prends un extrait de cet article paru dans Libération, et vous le dites, hein, effectivement, depuis le début finalement des clubs disco américains. Les clubs sont évidemment des espaces où émergent, et là on va revenir à la musique, des sous-genres musicaux, et y compris dans des petits clubs. C'est le cas par exemple de la High Energy, c'est de l'abréviation de High Energy, donc un genre de musique électronique a été créé au début des années 80 du côté de San Francisco. À l'époque, beaucoup de DJ d'ailleurs faisaient partie de la scène gay. Comment le comprendre ? Est-ce que cette innovation musicale, c'est disons l'un des symptômes de ce besoin d'affirmation d'une identité spécifique, d'une identité de marge ?
Alors c'est toujours difficile de définir précisément les contextes d'émergence d'un genre musical. Dans le cas de la High Energy, effectivement, c'est un moment très particulier de l'histoire de la dance music américaine, mondiale même, puisque on sortait d'une demi-décennie de on va dire d'hégémonie du disco, qui était une musique qui était née dans un underground très précis, qui est un underground plutôt sur la côte est, dans les clubs new-yorkais, qui étaient des petits clubs, hein, effectivement, où effectivement la communauté LGBT, comme on l'appelle aujourd'hui, se retrouvait pour danser sur de la musique, à l'abri du monde, et notamment à l'abri des clubs gays, où ils étaient la cible de violence de la part des hétérosexuels, de la police, voire des services de sécurité. Et c'est donc la Energy, donc au début des années 80, c'est après une demi-décennie de récupération par le mainstream du disco, voilà, on en a bouffé, y compris en France, dans le monde entier, le disco, on va dire, retournait, si j'ose dire, dans l'underground, retournait dans la contre-culture, et il a évolué assez naturellement dans sa forme. Il a aussi évolué par rapport à certaines pratiques, on va dire, de fête, par rapport à l'évolution aussi des drogues, hein, parce que les drogues ont joué un rôle très important, et aussi dans l'évolution des revendications. Ça me semble assez évident.
Oui, c'est toujours une histoire d'émergence de nouveaux genres et de récupération, finalement. Et vous dites qu'en ce moment, l'une des musiques électroniques émergentes du moment, c'est celle qui est produite par Lotik. Vous dites que c'est une jeune figure noire et gay aussi engagée dans la reconnaissance de sa musique aventureuse et débridée que son identité plurielle, cuir, transcommunautaire.
Tout à fait. C'est assez étonnant parce que la musique que fait Lotik, il n'est pas tout seul. Hein. Elle est... Elle peut paraître aux oreilles, on va dire non initiée, elle peut paraître très expérimentale, très chaotique. Et ce qui est étonnant, c'est que ce personnage, donc un jeune originaire de Houston, au Texas, qui habite à Berlin aujourd'hui, qui est un endroit où je pense que son identité s'affirme, peut s'affirmer d'une manière un peu plus libre, lui revendique vraiment un lien très fort avec la dance music et avec la scène club. Pour lui, c'est de la musique qui se revendique à la fois très libre dans sa forme, mais qui doit pouvoir se développer dans un contexte de club et dans un contexte de fête.
Et il faut s'attendre évidemment à ce que cette musique aussi soit récupérée. En tout cas, un grand merci Olivier Lam. On aurait pu encore évoquer très longtemps l'émergence de ces nouveaux genres musicaux. Malheureusement, il faut qu'on avance. La pendule tourne. On va parler désormais du Bhoutan. On a parlé de l'Allemagne, des États-Unis, de situations où les minorités sont sous contrainte politique, sociale, économique. Pourtant, il n'y a pas qu'en Occident qu'une contre-culture peut apparaître. Et récemment, justement, on croit en tout cas la presse française et étrangère, c'est même une véritable effervescence qui se produit autour des tatouages corporels. Au royaume du Bhoutan, petit pays montagneux d'à peine 1 million d'habitants coincé entre le Népal, l'Inde et la Chine, qui a évidemment cette particularité d'être le seul au monde à avoir transformé son PNB, hein, vous le savez Frédéric Cisnal, le produit en bonheur national brut. Alors, on a des services de base, l'écologie, une culture nationale pour tous, on est sur un principe de une nation à un peuple. Hein. Par exemple, le pays impose une langue unique à ses 25 ethnies, qui ont pourtant chacune leur dialecte, leur culture, et c'est donc dans ce contexte que Yeshe Nidoup, c'est presque un dissident, lui, qui est considéré comme le premier tatoueur professionnel du Bhoutan. Est-ce que c'est là l'éclosion d'une contre-culture au Bhoutan ? On écoute Yeshe Nidoup, il est au micro Xavier Martinet.
I do painting and sketching, but I really don't like to the traditional art.
En ce qui me concerne, je suis d'abord un peintre et un dessinateur, mais je n'aime vraiment pas l'art traditionnel au Bhoutan, parce qu'il y a tellement de règles, des proportions à respecter, c'est très embêtant. Et donc, je me suis de plus en plus intéressé à l'art occidental, et j'ai commencé à mêler les deux. J'ai fait ça pendant des années, et ça m'a donné une grande facilité pour passer au tatouage. Donc, j'ai voulu essayer, et comme je voyais mes amis avec des tatouages au bras complètement ratés, j'ai pensé que je pouvais les retoucher, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de tatoueurs professionnels. C'était des tatouages qu'ils s'étaient fait entre eux, entre amis. Donc, j'ai commencé sur mon propre corps, mes amis ont vu ça, et ils m'ont encouragé à essayer sur leur peau. Je l'ai fait d'abord avec deux ou trois d'entre eux, et j'ai commencé à devenir assez connu. En fait, le public ici apprécie beaucoup les images venues d'Occident, souvent celles des films ou des portraits de footballeurs. Mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'art japonais. Et alors qu'avant, on aimait ces images que pour les tatouages qu'on pouvait en faire, mais je pense qu'ils ont commencé à aimer aussi ce genre de mélange esthétique dans mes images.
Alors, il y a un article récent sur vous, publié dans la presse suisse. Il évoque 1000 tatouages réalisés en 10 ans. Ça fait 100 par an. C'est un rythme plutôt très rapide. Ça veut dire qu'il y a une forte demande maintenant ?
Eh bien, à ce que j'ai vu, c'est vrai. Je dirais que près de 2/3 des gens que je connais au Bhoutan veulent aujourd'hui des tatouages. Mais la raison pour laquelle la plupart m'en demandent, c'est vraiment parce qu'ils ont des tatouages ratés qu'il faut améliorer. Ensuite, je dirais qu'un peu moins de la moitié de ces clients ont moins d'une trentaine d'années. Et il y en a pas mal également, autour de 20%, qui ont entre 30 et 40 ans. Quant à leur motivation, c'est vraiment très partagé. C'est presque 50-50. Il y a ceux qui veulent conserver le souvenir de leur famille et de leurs proches décédés, d'autres qui sont vraiment excités par l'art occidental et qui veulent des portraits de personnes célèbres, des acteurs.
Et alors pourquoi est-ce que les gens veulent se faire tatouer au Bhoutan selon vous ? On parle de changement ces dernières années, même si on a peu d'informations. On sait que la télé est arrivée il y a 15 ans, Internet également. Il y a un nouveau roi qu'on dit progressiste en 2008, des élections législatives remportées par l'opposition récemment, et puis même un plan pour ouvrir l'éducation. Mais c'est un pays qui reste culturellement très traditionnel, non ?
Oui, c'est sûr que c'est un signe des temps parce que le Bhoutan est un pays qui se développe très rapidement. Et pendant ces 5 dernières années, je dois dire que c'est allé encore plus vite. Et donc, c'est vrai qu'ici, les gens sont en train de changer d'une certaine manière. Parce que vous voyez, il y a un an encore, des gens avaient effectivement une mauvaise opinion de ces pratiques du tatouage. Mais eux-mêmes comprennent publiquement et ils l'autorisent, ne s'y opposent pas. C'est sûr que du côté de certaines autorités politiques ou dans le travail, il y a encore des limites. Par exemple, pour être admis dans l'armée, devenir moine ou passer un entretien pour être pilote d'avion ou steward, là, on n'autorise pas les tatouages, car il faut une image impeccable pour ce genre de métier. Le gouvernement a effectivement mis des règles spéciales à l'embauche dans ces domaines. Mais si vous parlez de la vie quotidienne, on peut sortir en ville tatoué sans que ce soit un gros problème aujourd'hui.
Et pourtant, l'article suisse qui était paru dans l'Hebdo dit que c'est encore illégal d'être tatoueur au Bhoutan et que même vous, vous devez pratiquer votre art clandestinement, non ?
Non, vous savez, moi, j'essaie au contraire de montrer ce que je fais. Je ne cherche pas à me cacher. Ce que je voudrais, c'est pouvoir éduquer les gens à l'art du tatouage. Pour ce qui concerne le gouvernement, je vous avoue que je ne sais pas exactement. Parfois, certains disent que c'est illégal. Parfois, ils donnent publiquement leur assentiment. Je sais que certains journalistes ont précisé que c'était illégal. Mais du côté du gouvernement, officiellement, ce n'est pas un problème. Je vous le dis, l'opposition vient parfois de certains lamas, de certains moines ou de spécialistes de la religion bouddhiste. Mais encore une fois, on ne m'a rien interdit. Je n'ai pas l'intention de me cacher. Et si quelqu'un vient me dire quelque chose, je vais me défendre.
Et alors je disais que le royaume du Bhoutan a une politique culturelle plutôt très traditionnelle, c'est la politique de bonheur national qui vise à préserver notamment l'esprit bouddhiste et la culture bouddhiste au Bhoutan. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de compétition, on pourrait dire, avec l'art du tatouage ?
Non, vraiment, je ne pense pas que ça puisse remettre en cause notre culture, parce que l'art du tatouage ici est en train de devenir quelque chose d'assez unique, donc c'est vraiment quelque chose qu'on admet culturellement. Je vous signale qu'il y a même d'autres pays très bouddhistes où les gens ont déjà des tatouages, et ça ne les empêche pas de devenir moines. D'ailleurs, ici nous avons deux formes de bouddhistes. Il y a ceux qui se rasent la tête et ceux qui peuvent garder leur chevelure. Donc, de mon point de vue, à l'avenir, ça ne va pas amoindrir notre culture.
Et alors justement, dans ce pays du bonheur national, un certain nombre d'articles quand même évoquent un nombre de mots croissants, on pourrait dire, qui affectent la jeunesse qui vient en ville désormais. On parle de violence, d'alcool, de drogue également.
Mais bien sûr que c'est le grand pays du bonheur. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi des opportunités de réaliser ce bonheur. Et depuis les années 2000 environ, c'est une population, et notamment une jeunesse, qui est plutôt talentueuse au Bhoutan et qui est en demande. Moi-même, j'aurais pu aller plus vite, mais j'ai manqué d'opportunités, d'équipements et d'encouragements. Et donc, je reste un peu en arrière. Mais vous voyez, j'ai déjà tatoué sur quelqu'un un éléphant Ganesh, un symbole du bonheur hindou. Tout ceci pour vous dire que je pense que le bonheur est bien établi ici au Bhoutan. Mais de là à dire que je vais influer, changer quelque chose à notre culture, non. Bien sûr, les gens ici s'intéressent de plus en plus à l'Occident et à son art, à d'autres choses aussi, mais si en matière de religion, ça ne va rien changer, parce que j'ai beau faire des tatouages et aimer cela, mon esprit reste le même et je reste fidèle à ma propre religion bouddhiste.
Est-ce que vous, un jour, vous pourriez envisager de tatouer un symbole hindou, par exemple, à la demande d'un Lhotse Sampa, qui sont ces Népalais hindous du Sud, donc, dont on a détruit les temples au nom de la politique du bonheur national et de l'unité du pays?
Je vais vous dire, ils viennent déjà. Ils viennent qu'ils soient chrétiens, hindous ou musulmans. Pour ce qui est de la religion bouddhiste, nous croyons que le culte religieux ou la croyance individuelle importe peu. Pour nous, tout Dieu est le même. Mais ce qui doit être clair, c'est que nous gardons et garderons un esprit bouddhiste. Alors, nous n'avons pas, et moi personnellement je n'ai pas de problème à avoir des hindous pour clients. D'ailleurs, nous pouvons très bien aller prier dans les temples des autres religions. Je vous le dis, il n'y a aucune restriction religieuse de ce genre.
Et oui, c'est sur un rap népalais justement qu'on clôt cette interview de Neshe Nidup, le premier tatoueur professionnel du royaume du Bhoutan qui était au micro de Xavier Martinet, un pays étonnant hein, qui cherche finalement à échapper à l'influence de l'Occident et où finalement eh bien, la contre-culture est précisément celle que nous on trouve ici en Occident. Merci à vous Frédéric Cisnal de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup
de nous avoir éclairé sur cette scène berlinoise des années 80. Je rappelle votre ouvrage que je conseille aux auditeurs. Berlin avant la techno, du post-punk à la chute du mur. C'était paru aux éditions Le Mot et le Reste. On mettra bien sûr les références de votre ouvrage sur la page de Culture Monde. Un grand merci. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Bourré. Mais juste avant de la retrouver, c'est La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.